tous. Comme un jeudi, l'architecture à l'heure de la présidentielle, grande absente des débats, la ville. L'Académie d'architecture a choisi d'interpeller les candidats. Nos villes se défont en même temps qu'elles s'étalent, déplorent les membres signataires de cette pétition. Invitée, la présidente de l'Académie, l'architecte Manuel Gontran et l'urbaniste Philippe Panneret, rédacteur en chef de la revue Tous Urbains. Ils seront avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, Camille Claudel de la Muse au Musée, à l'occasion de l'ouverture du premier musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, retour sur l'œuvre de la sœur de Paul Claudel et de la muse d'Auguste Rodin, désormais artiste à part entière, femme sculpteur dans la lumière, avec nos invités Anne Delbé et Bruno Gautichon. Ils sont avec nous tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Camille Claudel, sculpteur et pas sculptrice. Qui était-elle? Une femme, pour en parler. La metteur en scène Anne Delbé, spécialiste de Racine, auteur en 82 de Une femme, récit biographique, un best-seller après avoir été théâtre. Et à deux côtés également Bruno Gaudichon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous Anne Delbé. Conservateur Bruno Gaudichon et directeur de la piscine, le musée d'art et d'industrie André Diligent, situé dans une ancienne piscine art déco de Roubaix. Il a contribué, vous avez contribué Bruno Gaudichon, à faire redécouvrir l'artiste et ses sculptures à la fin des années 70, après un long temps d'oubli, exposer ses sculptures, un peu avant tout le monde quand même, au musée Sainte-Croix de Poitiers, et coéditer la correspondance de Camille Claudel chez Gallimard. On pouvait voir son buste d'Auguste au musée Rodin, on savait qu'elle avait été folle, l'amante d'eux et la sœur d'eux, et puis pas tellement plus. Anne Delbé, vous faites connaissance avec Camille Claudel par l'entremise de Paul Claudel, dont vous êtes une grande lectrice, dont vous avez mis en scène aussi L'Échange, La Ville ou encore Tête d'Or. Est-ce la femme sculpteur ou une vie de femme extraordinaire, vraiment, que vous avez voulu faire connaître, voire réhabiliter à travers cette biographie qui était sortie, romancée, qui était sortie au début des années 80?
Oui, c'est le sculpteur, tout simplement, parce que je suis une grande amoureuse du poète Paul Claudel depuis l'âge de 12 ans et demi. Mais invitée aux rencontres internationales de Brangues, j'ai découvert une sculpture de Camille. Et comme je suis fille d'architecte, je suis très heureuse qu'on reparle de l'architecture, et que mon cousin était sculpteur et que j'étais une folle, je suis toujours une folle de la sculpture. Je suis tombée amoureuse d'abord d'une sculpture de Camille et en disant au Claudel, mais c'est magnifique. Et évidemment que je connaissais l'histoire de la sœur de Paul Claudel puisque depuis l'âge de 12 ans et demi, je travaillais sur Paul Claudel. Mais c'est le sculpteur que j'aime, vraiment, devant lequel je m'agenouille.
Et en même temps, est-ce que sa vie et son œuvre ne sont pas totalement imbriquées?
Absolument, mais moi je pense, et Bruno Gaudichon répondra mieux que moi, mais je pense qu'il y a deux formes d'artistes. Il y a des artistes dont apparemment ce n'est pas imbriqué, c'est-à-dire qu'ils font leur art, que ce soit musicien ou sculpteur ou architecte. Et puis il y a des artistes qui sont totalement imbriqués comme Van Gogh, emportés dans leur art et brûlés par leur art. Donc Camille appartient à cette seconde catégorie, qui est peut-être la première, je ne sais pas.
Juste encore une question avec vous, Camille Claudel, dans le texte de Paul Claudel, comment était-elle? C'est-à-dire, comment parlait-il d'elle? Parce qu'après, vous avez dû découvrir encore d'autres facettes de sa personnalité.
Tout à fait.
En cherchant...
Alors c'est drôle, quand vous dites une biographie, à l'époque, personne ne la connaissait, enfin non, tout le monde l'avait, sauf Bruno Gaudichon qui m'avait joint, justement. Ça n'intéressait peu de monde et la famille pensait qu'elle était simplement une tante folle. Mais moi, je savais son existence par les textes qu'a laissé Paul Claudel de sa sœur. Et ce qui m'avait surpris, et puis aussi par les pièces où je voyais bien que c'était la figure féminine de Paul Claudel, c'était, comme il dit, Camille, cette jeune femme avec un air de franchise, de beauté, de gaieté, avec des cheveux qui lui tombaient jusqu'aux reins, un air impressionnant de courage, de franchise et de génie. Et c'est cela, c'est pour ça que pour moi ce n'est pas, j'ai toujours défendu ça, c'est pas une victime, c'est une femme en avance de notre époque même, une femme une femme, quoi. Comme j'ai voulu appeler le livre, une femme.
Pas une victime, voire peut-être une héroïne.
Exactement. Je pense que c'est quelqu'un qui nous montre le chemin du courage et qui a fait, qui a pas raté sa vie, qui a été jusqu'au bout de son art.
Et Bruno, elle l'a payé cher. Ouais, Bruno Cotichon, justement, le courage, c'était aussi de s'imposer pour elle dans un monde d'hommes, quand même. On va reparler de ses influences ensemble. Mais vous, cette rencontre, la rencontre, la vôtre avec Camille Claudel, rencontre de conservateur, une rencontre en bronze, elle s'est faite où? C'était dans les réserves d'un musée?
Oui, en fait, en arrivant au musée de Poitiers, dans le cursus de mes études, avant de devenir conservateur, effectivement, il y avait trois bronzes dans les collections du musée, la valse, l'abandon et la fortune. Et c'est notamment la valse, avant même de savoir toute l'histoire qui tourne autour de ce groupe magnifique, c'est le choc, l'émotion esthétique devant une œuvre qui m'avait marqué.
Et c'était la valse ou c'était une valse?
Alors c'était la valse qui est un des éléments, il y a plusieurs... version.
Parce que Camille Claudel travaillait beaucoup en série. Hein.
Ouais. Oui, ça fait partie justement de ce côté moderne et en même temps assez rodinien que d'aller au bout d'un modèle sur lequel elle revient. Alors, en l'occurrence pour la valse, c'est à la fois un choix et puis une sorte d'obligation pour essayer d'avoir cette commande de l'État où on lui demande de rhabiller le groupe de départ où les protagonistes étaient sans voile. Mais c'est vrai que ce travail sur la série, sur l'extrait, fait partie du style de Camille Claudel.
Mais alors là, vous trouvez ces
œuvres magnifiques.
Ces œuvres, et qu'est-ce que vous en faites? Rien, alors... vous n'avez rien le droit d'en faire encore. Vous n'étiez même pas conservateur, c'est
non,
ça?
Ouais, oui, mais en fait, je ne peux pas raconter ma vie qui n'a pas grand intérêt, mais c'est aussi tombé à une période où le livre d'Anne est sorti peu de temps après. Et d'autres personnes travaillaient sur Camille Claudel. Donc c'est la rencontre avec Anne Rivière, notamment, avec laquelle je continue à travailler. On a travaillé la correspondance, on a fait le catalogue Raisonné ensemble. On se voit toujours très régulièrement. Il se trouve qu'elle avait des liens avec Poitiers, donc elle était venue voir les œuvres. Et du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et puis il y avait Jacques Cassard, qui, un peu comme Anne, venait du monde claudélien, et que moi je n'ai pas croisé, mais... qui lui-même préparait aussi une biographie. Donc c'est la fin des années 70, le début des années 80, curieusement, pour quelqu'un qui a été complètement oublié, qui est avec des dates complètement erronées dans les dictionnaires d'artistes, un faisceau de gens travaille sur elle. Ce qui explique peut-être le retentissement du livre d'Anne, c'est tombé à un moment où sans doute cette redécouverte devait arriver.
Et puis un peu après, Camille Claudel a aussi été réveillée par le cinéma.
On dit que tu vas mal. Mais quand je vois la quantité du travail...
Tu ne veux pas voir?
Non, je préfère toucher. Je veux toucher d'abord. Avec ton beau courage, tu es un démon de volonté. Non, tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas. Je t'ai expliqué tout à l'heure les embrouilles que j'avais avec mon Balzac. Qui te donne suite à cette ébauche, une nouvelle affaire va encore éclater. Comment peux-tu réduire ce que nous avons vécu à cette image-là? Tu me représentes comme un pantin désarticulé par deux femmes. Cette caricature est ignoble.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je voudrais que tu fasses ce que je te dis. Voilà exactement ce que je voudrais que tu fasses. Et tu le sais très bien.
Tu veux que je fasse autre chose que ce que je fais? J'entends suivre mon chemin à moi. J'ai acquis ce droit.
Non, si ton chemin te donne le droit de me ridiculiser comme ça ou de me détruire, alors tu dois y renoncer. Tu dois y renoncer. Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre. Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi.
Quoi?
Aucune! Tu es un sculpteur de troisième ordre.
Mais tu t'attaques drôlement violemment à un sculpteur de troisième ordre.
Tout vient de moi, rien de toi. Tu te bats trop pour ta sculpture. Il y a longtemps qu'elle se défend par elle-même.
Tu peux m'expliquer pourquoi tu es si jaloux?
Jaloux?
Oui.
Jaloux, moi? Mais moi, je sculpte la vie, pas la mort. Toi, tu donnes tort à la vie.
les mêmes magnifiques yeux bleus sombres. Camille Claudel, pour beaucoup, c'est encore elle, Isabelle Adjani, dans le film de Bruno Duyten, sorti en 88, plus de 2,5 millions d'entrées. Même Juliette Binoche, formidable, dans le Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont, n'aura pas réussi à l'éclipser ni à la supplanter. Ce réveil de Camille Claudel par le cinéma l'a présenté en artiste à la fois de génie, Annelle B., mais quand même tourmentée, et qui montre aussi une des facettes de la vie de Camille Claudel, sachant qu'on a beaucoup tendance à séparer ces deux temps que furent le temps de la création, 30 ans presque, et les 30 ans d'asile qui suivirent, l'époque Rodin et celle de l'enfermement. Là, le film s'attache vraiment à la première période, la période de Camille Claudel, sculpteur, comme vous l'évoquiez. Vous vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé votre Camille Claudel dans ce film, quand il sort en 88 ?
Non. Et oui, c'est-à-dire je trouvais que c'est très compliqué parce que comment être oui, pour comme je vous l'ai dit, pour moi Camille n'étant pas une victime et de voir Adjani pleurer tout le temps, alors qu'elle éclatait de rire, Camille, on le sait puisqu'il y a des témoignages. Et puis c'est toujours compliqué les films sur les êtres comme sur Rimbaud, Verlaine, etc. parce que finalement on n'entend pas l'écriture de Rimbaud, là on voyait la sculpture, mais de pénétrer comme ça ce travail fou des sculpteurs, donc j'étais un peu, je n'aime pas l'anecdote, donc j'étais un peu triste devant, je m'en fichais un peu de leur coucherie et de leur dispute face à la sculpture. Mais c'est bien qu'il y ait eu
ce... Annelle B., le cinéma expose et trahit toujours
tout
un
à
peu.
Fait,
hein.
Oui.
Sur cette part d'ombre et cette part de lumière qu'elle pouvait avoir en elle, Camille Claudel, il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente, écrit-elle à Rodin dans sa correspondance. Est-ce que ça incarne, explique ce qui a pu être aussi ce qui la tourmentait finalement?
Je suis très... Pourtant, il y a longtemps, hein, mais je continue à être hantée par Camille. Mais je suis touchée par tous les grands. Rimbaud qui dit « j'ai arrêté d'écrire, sinon je serais devenu fou ». Michel-Ange qui détruisait ses sculptures à la fin de sa vie. On a dit Camille était folle parce qu'elle détruisait. Mais j'ai l'impression que les génies, parce que je pense que c'est un génie, Camille Claudel, je pense vraiment qu'on a affaire à un génie, c'est-à-dire quelqu'un habité par quelque chose de plus grand que lui, et je pense qu'elle était justement à la recherche d'un absolu à travers la matière. Vous savez, Michel-Ange avait dit que la sculpture, c'est l'art du vide, et c'est terrible, quoi. J'ai l'impression que elle a basculé dans ce vide, comme ça, dans cet espace, à la recherche de la forme, et comme dans sa vie, c'est-à-dire que l'amour fou, l'amour unique, l'amour dévastateur, là, je n'aime que ça, alors bon, ça, je peux pas, ce que je dis toujours, je les vois mal, Rodin et Camille faisant la cuisine ensemble, vieillissant bien ensemble, c'était pas pour elle quand même.
Bruno Codichon, un génie?
Oui, assurément. En même temps, un génie qui n'est pas hors sol. C'est-à-dire que, notamment, bon, vous évoquiez le musée de Nogent qui vient d'ouvrir. C'est très passionnant de la voir inscrite dans l'art de son temps.
Ouais, alors justement, mettons peut-être ensemble les deux pieds dedans. Un musée aujourd'hui pour casser son image d'épigone de Rodin, sans originalité propre, nous dit Cécile Bertrand dans le Journal des Arts qui dirige ce musée. Elle avait détruit, on l'évoquait, une grande partie de ses œuvres. Il en reste quand même assez visiblement aujourd'hui pour faire musée et avoir un aperçu représentatif de ce qu'elle créait, de ce qu'elle était comme femme sculpteur pour vous, Camille Claudel.
Oui, alors de toute façon, l'œuvre en elle-même n'est pas, ou en lui-même, puisque l'œuvre en général n'est pas énorme en nombre. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de séries, c'est-à-dire qu'autour d'une œuvre, vous avez une suite de versions avec des nuances parfois plus que des différences. Mais c'est évidemment très important qu'il y ait, au-delà des expositions temporaires qu'il y a eu ces dernières années, un endroit où on puisse voir en permanence les œuvres, parce que quand même, au-delà de la destinée, l'œuvre est fondamentale. Et puis, je trouve le principe, encore une fois, de Nogent, d'avoir inscrit les œuvres de Camille Claudel dans une présentation plus large de la sculpture de cette époque, notamment autour de Paul Dubois et d'Alfred Boucher, qui ont été très proches d'elle à ses débuts, et un regard tout à fait passionnant.
André Boucher ?
Alfred Boucher.
Alfred Boucher.
J'ai dit André ?
Non, vous avez dit Alfred.
Non, Alfred Boucher.
Et Paul Dubois, et Rodin aussi.
Voilà, et Rodin,
c'était ses contemporains. Et le musée, est, quand on entre dans le musée, on voit d'abord effectivement l'œuvre de ses contemporains avant d'arriver jusqu'à l'œuvre de Camille Claudel.
C'est le chemin de l'histoire, hein, c'est le chemin de la vie, pour reprendre un des titres que Camille Claudel avait donné à l'âge mûr. À Nogent, la rencontre avec la sculpture de la Troisième République est forte, puisque et Alfred Boucher et Paul Dubois sont Nogentais. Et c'est eux qui finalement vont accompagner les premiers pas professionnels de Camille Claudel. C'est aussi Paul Dubois qui va sentir très, de façon très intuitive tout de suite, une sorte de parenté un peu étonnante avec l'art de Rodin, qu'elle ne connaissait évidemment pas. Donc c'est ce retour à Nogent a du sens. Et encore une fois, je trouve que la façon dont le musée, c'est-à-dire dont les conservateurs successifs, hein, Jacques Piette, Yves Bourrel, Françoise Magny et Cécile Bertrand aujourd'hui, ont créé ce parcours, est tout à fait passionnant. Parce que il faut pas, à mon avis, pris par l'émotion, sortir complètement Camille Claudel de son temps, parce qu'elle est passionnante justement parce qu'elle est à une articulation temporelle assez exceptionnelle, qui est celle d'une transformation de la sculpture, et elle rentre quand même dans l'atelier le plus extraordinaire de l'époque, qui est celui de Rodin. Et puis elle arrive aussi au tout début, parce que c'est quand même un élément, même si on ne doit pas le surestimer, qui est important, qui est celui de l'arrivée des femmes sur le terrain de la sculpture précisément. Et par exemple, aujourd'hui, regarder la sculpture de Louise Bourgeois sans penser à celle de Camille Claudel n'a plus de sens. Voilà. Non pas qu'elle ait fait une sculpture de femme, mais elle est le pionnier de cette inscription d'une autre façon de voir la sculpture, je crois, liée quand même aussi à un destin de femme, à une période donnée, qui va donner lieu à ce désastre fin de siècle, comme on l'a dit, qu'a été sa vie.
Alors un musée à Nogent, où elle a vécu, en même temps un musée qui ne lui est pas entièrement dédié, qu'elle doit partager avec ses maîtres, ses influences, ses contemporains. Est-ce que dans cette idée que Camille Claudel est aujourd'hui un petit peu loin à Nogent et pas à Paris, comme Rodin, qu'elle a été aussi très très peu exposée quand même à l'étranger, alors que Rodin est lui un des sculpteurs les plus populaires ou les plus connus partout dans le monde pour représenter la France, est-ce qu'il y a encore une injustice qui demeure ? Est-ce que vous trouvez qu'on lui fait aujourd'hui la place qu'elle méritait, ou est-ce qu'il aurait fallu peut-être voir plus grand autrement ?
Alors, bon, d'abord, ça serait très injuste pour Nogent, qui a quand même fait l'effort d'acquérir cette collection et de faire
là,
ce musée, ce qui est quand même pour une ville de petite dimension.
On est là pour marquer quand même l'événement aussi.
Un choix important. Camille Claudel est quand même présente à Paris. Aujourd'hui, les œuvres qui appartiennent au musée Rodin sont présentées quasiment toutes en permanence. Le travail qu'a fait Catherine Chevillot depuis son arrivée est quand même tout à fait dans cet esprit. Elle est présente au musée d'Orsay avec la plus belle fonte de l'âge mûr et avec le torse de Clotho. Voilà. Après, encore une fois, l'œuvre en volume n'est pas énorme. Et en plus, peu d'œuvres éditées à l'époque. Des pièces qui sont vraiment entre guillemets authentiques, non pas au sens légal, mais en tout cas émotionnellement, il y en a pas tant que ça. Voilà. Donc, elle est bien représentée dans le territoire français, notamment grâce aux Rothschild qui lui ont beaucoup acheté à la fin du 19e siècle et qui ont donné à des différents musées en province, comme on disait à l'époque. Elle est bien représentée à Paris. Parfois, Nogent sera un voyage doublement agréable désormais.
Bruno Godichon, Anne Delbé, quelles œuvres sont aujourd'hui exposées dans ce musée Camille Claudel à Nogent et quelles sont celles qui vous parlent le plus ? Est-ce que vous pouvez vous emparer l'un et l'autre d'une des œuvres exposées là-bas pour nous la raconter et surtout nous raconter Camille Claudel à travers elle ? Alors on retrouve une salle entière consacrée aux valses de Camille Claudel avec 5 sculptures en bronze, en plâtre et en grès, une salle consacrée donc à ce couple de danseurs enlacés, à ce tourbillon amoureux qui avait d'ailleurs pas mal choqué à un moment de sa présentation. Une autre salle est dédiée à l'âge mûr. On entendait justement les rapports houleux entre Rodin et Camille Claudel dans l'extrait du film Camille Claudel qu'on entendait tout à l'heure avec Gérard Depardieu et Isabelle Adjani. Autre sculpture majeure de Camille Claudel, cet âge mûr qui évoque sa rupture, Bruno Codichon, avec Rodin sous forme d'allégorie, cet homme mûr imposant poussé par une figure et qui tourne le dos à une jeune et petite femme ou figurine implorante. Est-ce que parmi ses œuvres, il y a aussi toutes les œuvres de jeunesse qu'on peut retrouver au musée de Camille Claudel, La vieille Hélène, La petite châtelaine? Est-ce que vous avez envie de vous en emparer d'une ou de l'autre, Anne Delbecq?
Malheureusement, je les ai eues dans les mains alors que personne ne s'y intéressait. Et Claudel m'ont dit, vous pouvez les prendre, j'aurais dû les prendre. Non, parce que ça appartient à tout le monde, heureusement. J'ajoute juste que c'est extraordinaire, parce que c'est quand même à 12 ans, c'est des bois. Et on a tout de suite vu effectivement que ça ressemblait à du Rodin. Elle avait que 12 ans quand elle a fait le Bismarck et le Napoléon. Et ce qui m'émeut aussi, c'est juste une parenthèse, dans la complicité avec Rodin, c'est que la lettre qu'elle écrit sur le Balzac, alors que tout le monde se moque du Balzac de Rodin, et elle est la première à voir tout de suite que ça va être une très grande sculpture. Donc ça prouve son génie qu'elle avait tout de suite la lettre à Rodin où elle dit « Dans les temps futurs, on saura que c'est une très grande sculpture ». Moi, c'est la petite châtelaine qui me fait pleurer, mais vraiment pleurer. Il y a une telle foi dans le regard de cet enfant, il y a une telle... c'est d'une beauté, mais ça me fait pleurer d'innocence. Voilà, comme d'innocence. Et puis, alors au niveau pratique, puisque c'était une praticienne, c'est la Clotho en marbre qu'elle a taillée directement.
Aujourd'hui disparue. Hein,
comment peut-on... Ah, je ne savais pas, parce que je n'ai pas été au musée. Quoi. Et qui pour moi... Ah bon, elle a disparu.
En fait, la Clotho, la Clotho en marbre avait été commandée à Camille Claudel par un groupe autour de Rodin pour le banquet Puvis de Chavannes pour être offerte au musée du Luxembourg, qui était le musée national d'art moderne de l'époque. Et puis, c'était juste après le legs Caillebotte qui avait fait beaucoup de bruit et le conservateur du musée n'a pas voulu l'accepter tout de suite et l'œuvre a été livrée au musée du Luxembourg, mais elle n'est jamais rentrée sur les inventaires et on l'a...
Alors, je l'ai imaginé, c'est grave.
On la connaît en photo et puis on connaît quand même le plâtre qui est absolument extraordinaire, complètement hallucinant et qui est dans les collections
du musée. Parce que c'est des filaments, on se demande comment elle a pu tailler ça sans que ça se rompe.
Très marqué justement. Par cette région de l'Est, parce que par les girichiers qu'elle a vus, les fameux transits de la fin du Moyen-Âge.
Le temps, la jeunesse, la vieillesse, l'amour. C'est une contemplative aussi, hein, Camille Claudel. Elle s'inspirait beaucoup des scènes de rue, des passants qu'elle voyait. Elle retenait des impressions et elle sculptait derrière. Dans son atelier, elle aimait aussi représenter ses proches. Et parmi ses proches, il y avait Rodin. C'est en ce moment le centenaire de la disparition d'Auguste Rodin qu'on célèbre cette année. Et au musée Rodin, il y a un dialogue entre Auguste Rodin et Hansen Kiefer qui a été organisé jusqu'au 22 octobre. Carte blanche pour l'artiste contemporain et ses vitrines. Et résurrection dans l'hôtel de Biron de l'absolution de Rodin en lieu et place du baiser prêté au Grand Palais. Une grande œuvre composite qui simule l'étreinte et n'a jamais été présentée au grand public et a nécessité un intense travail de restauration. On est allé sur les lieux, dans le hall principal du musée, avec la commissaire Véronique Matuissi d'abord, puis Christine Lancestremer en charge de la restauration de cette œuvre. Écoutez-les au micro de Clémence Marie.
C'est une œuvre qui est une sorte de grand assemblage qui rassemble plusieurs figures, trois figures réalisées par Rodin anciennement et qui sont d'une part la terre, la tête de la martyre et le torse du Golin. On assiste à un moment, le moment du baiser, de l'absolution, un moment à la fois tendre, très émouvant et qui est un peu sacralisé par... c'est une sorte de huis clos, renforcé ici par le drap qui le recouvre.
Est-ce qu'on pourrait faire le tour de cette œuvre ?
Ce sont des figures en plâtre, recouvertes par un énorme drap et posées sur une espèce de base en bois, tout simplement. On est là dans un domaine complètement expérimental, on est dans l'intimité de la création, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment un moment de recherche. Il nous reste vraiment tout à connaître. On sait très peu de choses sur cette œuvre. C'est ce qui la rend encore plus magique. Elle a un sentiment, une émotion différente selon l'endroit où on se place pour l'observer, en fait. Ici, le tissu est vraiment fait pour arrêter le temps et rendre encore plus précieux cet instant du pardon.
Je m'appelle Christine Lancestremer, je suis conservateur du musée et chef du service de la conservation du musée Rodin. C'est a priori un drap de lit qui a été utilisé, que Rodin a drapé, et une fois le drapé souhaité obtenu, il a cherché à figer ce drapé en l'enduisant de plâtre. Là où le plâtre avait disparu, le tissu s'était déchiré. Et donc il y a aussi un gros travail de consolidation du textile qui a nécessité d'intervenir par en dessous. Il y avait la problématique du nettoyage, parce que vous voyez qu'il y a des endroits où le plâtre est redevenu très blanc après un premier dépoussiérage, alors qu'il y a d'autres endroits où le plâtre était extrêmement noir et encrassé. De toute façon, on ne pouvait pas envisager de retrouver un état neuf, entre guillemets, pour cette sculpture qui est quand même très très abîmée et dont le tissu est malgré tout déchiré, et ça, on n'y peut rien non plus. Là, elle va faire de la retouche. Elle sort des couleurs, une petite palette, des lions, parce que donc la couleur, c'est toujours un pigment et un lion. Et elle va sans doute retoucher la pâte en métallique. Les seuls éléments d'information qui ont été disponibles sont ceux que les restaurateurs ont pu décrypter sur l'œuvre elle-même. Et je ne suis pas sûre, en fait, qu'on pouvait retrouver...
L'œuvre est en train de bouger devant nous.
L'œuvre bouge, le textile est complètement libre, en fait. Donc c'est une œuvre qu'on ne pourra pas laisser exposer de manière permanente, de toute façon. Et je ne pense pas qu'elle voyagera. Je l'ai vue changer, on l'a trouvée en réserve, enfin, elle était là et depuis on la voit changer, donc c'est un peu comme un enfant dont on surveillerait la croissance, vous voyez. Enfin, moi, elle m'émerveille littéralement, c'est-à-dire que c'est pareil, en la voyant se recomposer dans l'atelier au gré de la restauration, elle a retrouvé toute une, je sais pas, une force poétique extraordinaire, la tendresse du mouvement de la tête de la martyre sur le corps de la terre. Je trouvais quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on ne pouvait pas percevoir avant le remontage. Et ça fait partie des miracles de la restauration.
Et c'est à voir donc au musée Rodin jusqu'au 22 octobre, cette œuvre L'Absolution, dans le cadre de l'exposition La Carte Blanche qui a été donnée à Ansel Kiefer. Il y a beaucoup de choses à voir en ce moment. Il faut donc aller, Bruno Godichon, au musée Camille Claudel
de Nogent.
De Nogent.
Aller au musée Rodin, aller à voir l'exposition Rodin, et puis dans les musées en région, comme à Roubaix, où il y a un fonds Camille Claudel également.
Ça, important. C'est chez vous, voilà. À la piscine.
Le Nord est bien doté, Lille, Roubaix, Tourcoing, on a trois musées, un bel ensemble.
Et la piscine, beau travail d'architecte, puisqu'on va parler d'architecture dans quelques instants.
Oui. Et Emmanuel Gautran, que vous allez recevoir, a fait l'agrandissement du LAM à Villeneuve-d'Ascq, juste à côté. Donc voilà, très beau travail pour la collection d'art brut. C'est très important l'architecture, mais la culture dans le débat. Les élections n'est pas assez présentes de toute façon.
On essaye. Merci beaucoup à tous.
Merci
les deux.
À vous. Merci
à j'aimerais aller voir aussi des sculpteurs dont on ne parle pas, qui sont nos contemporains, dans des petites boutiques. Il faut aller voir.
On attend que vous fassiez d'abord leur biographie ou leur autobiographie. Merci beaucoup à vous.
Merci, bonne journée.